des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, comment allez-vous, amoureux de lecture? Je suis très heureuse une nouvelle fois de vous inviter à suivre cette émission des livres plein les oreilles qui va vous permettre justement de pouvoir découvrir bien des livres et puis bien des auteurs. Aujourd'hui, je reçois à l'émission une auteure que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça et dont j'adore l'écriture. Vous savez que de toute façon, je n'invite que des gens que j'aime. Elle s'appelle Roxane Bouchard. Elle est déjà ici à la table. Bonjour Roxane.
Oui, bonjour.
Et puis l'émission va commencer avec une habituée de cette émission des livres plein les oreilles, c'est Madame Vanier qui nous fait la joie et le plaisir encore une fois de participer. C'est l'avant-dernière émission avant la fin de saison. Et oui, oh mais oui, je vous entends de là, mais que voulez-vous? Il y aura également des rubriques comme notamment sur ma table de chevet, il y aura la rubrique de la bande-annonce, il y aura des nouvelles et des livres, nous parlerons des prix des libraires du Québec et puis nous finirons l'émission comme toujours avec quelques titres en rafale. Et tout de suite, je vais me tourner, parce que je pense qu'elle est déjà au téléphone, vers Madame Vanier, que nous accueillons en musique. Chère Janine, chère Madame Vanier, comment allez-vous?
Très bien, merci, vous-même.
Mais très bien. Excusez-moi de vous appeler Janine, pardon pour cette familiarité.
J'aime bien mieux ça comme ça.
C'est vrai, parce qu'écoutez, oui. Maintenant, depuis le temps qu'on se connaît,
bien sûr.
On est comme des vieilles copines.
C'est vrai, c'est presque ça.
C'est presque ça. Hein?
Oui.
Janine, vous avez accepté comme toujours, spontanément, lorsque je vous appelle, ça vous fait toujours plaisir de venir nous parler d'un livre. Et là, vous avez un choix que je trouve particulièrement excellent. Je voudrais que ce soit vous qui nous présentiez le titre de ce livre et son auteur.
Alors, il s'agit d'un livre de M. Boris Cyrulnik. Il est question de son histoire. Mm-hmm. Et le titre est « Sauve-toi, la vie t'appelle ».
Quel beau titre, hein?
Oui, et on se demande ce que ça veut dire au début, mais on se rend compte que ça veut dire énormément de choses. Enfin, au début, il dit « Je suis né deux fois, mais de ma première naissance, je n'ai aucune mémoire parce qu'on me l'a raconté, mais ma deuxième naissance a commencé quand j'avais à peu près 6 ans.
Oui.
Et la nuit où j'ai été arrêtée par les Allemands.
Alors, attendez, on va y aller dans l'ordre. Donc, c'est un enfant qui a été adopté, donc il n'a aucun souvenir, évidemment, de sa famille première, c'est bien ça. Donc,
c'est ça.
Il a été adopté à l'âge de 6 ans.
Je ne sais pas, oui, c'est-à-dire que c'est sa tante, je pense, qui l'avait pris en charge, parce que ses parents, sa mère était décédée, puis son père était mort à la guerre, je pense.
D'accord.
Mais en fait, il a été arrêté avec plusieurs autres enfants, lors d'une nuit, là. C'est ça qu'il raconte.
Oui, parce qu'il était juif.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Il est d'origine russe et d'origine juive, hein?
Oui, russe ou polonaise. Je me demandais si c'était pas plutôt polonaise, par son nom, puis par certaines allusions, je pense, qu'il faisait.
OK, d'accord.
Oui, mais j'étais pas certaine. En fait, on va y revenir à la Russie si on a le temps, parce que beaucoup plus tard, il est allé faire un voyage en Russie pour...
Oui.
Parce qu'il avait fait partie des jeunesses communistes en France.
OK, d'accord. Alors, à quel moment est-ce qu'on lui dit, parce que pour lui, ça a été un choc, on lui dit à partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Jean Borde. Répète, tu t'appelleras Jean Borde.
Ah, ça, je me souviens plus à quel moment.
J'imagine, parce que je me disais, est-ce que c'est au moment où il a été récupéré par une tante ou est-ce que c'est au moment où... Parce que peut-être qu'on a dû le cacher aussi avant qu'il soit arrêté. J'imagine que c'était peut-être pour le cacher.
C'est ça.
C'est ça.
Et puis, sa tante, évidemment, il entendait... quand il entendait le mot juif, il ne savait pas ce que ça voulait dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire que quand on parle de ça, il faut que je me cache ou même il y avait des gens qui un peu plus tard, en tout cas quand il était il a pu s'évader de certains camps de concentration parce que il était en fait je voulais vous dire ça parce que quand tout ce qui se passait quand il était petit ça suscitait pas tellement chez lui une peur à l'époque. Et souvent, il a réussi à se cacher, à s'évader. D'abord, il était pas mal grimpeur. Et puis, mais je me rappelle, en fait, il y a un fait qui m'est resté, que je peux évoquer clairement.
Oui.
C'est qu'un jour, contrairement à ce que je viens de vous dire, il s'était caché en dessous d'un matelas. C'est qu'il faisait partie d'un camp où il y avait plusieurs enfants, là.
Oui.
Et il y avait des infirmières et elles étaient chargées de trier les enfants qui devaient être amenés au camp de la mort.
Oui. Mmh.
Et puis, en fait, il y a eu vent de quelque chose, qu'il y avait un danger, là, je ne me souviens plus comment.
Peu importe.
Alors, il s'est caché en dessous du matelas, puis il y a une dame qu'ils ont mis, qui est arrivée, une dame qui était très malade. C'est ça, il triait les gens malades parce qu'il voulait se débarrasser des gens.
Ben oui, c'est certain. Les plus faibles, c'est ça. Les plus faibles et les malades et les juifs, on les envoyait d'abord, oui.
Il était caché en dessous du matelas. Puis là, cette dame, là, ils sont venus la chercher. Puis ils ne se sont pas aperçus de rien. Il n'y a plus s'en sortir, en tout cas, se libérer, là, je ne sais pas trop. Mais. En fait, il raconte ça, puis souvent, plus tard, il revient sur des choses comme ça dont il avait parlé, puis il ajoute d'autres choses. C'est un petit peu difficile à suivre des fois, mais quand même... vous me disiez tantôt...
On n'est pas dans le mélo. Hein?
Non,
on n'est pas du tout, parce que de la façon dont on en parle, ce type, comme beaucoup de gens de sa génération, ont vécu... Les pires sévices ont vécu, alors surtout lui en plus, déjà enfant adopté, ça partait très mal. Mais c'est un récit assez poignant, hein, vous serez d'accord avec moi. Mais il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de mélodrame. Et j'ai lu quelque part, et dites-moi si c'est vrai, que c'est un vibrant hommage en fait à tous ceux qui l'ont aidé.
À
s'en sortir. Et ils sont nombreux, justement, l'infirmière, celle qui l'a mis sous le lit, là.
Il était aimé.
Oui.
Même, il y a certains Allemands qui cherchaient pas à, ils cherchaient à lui donner des bonbons, puis tout ça, il était pas... En fait, quand les Allemands sont arrivés dans Paris, il y avait peut-être 5 ans à ce moment-là, il dit, je trouvais ça beau de les voir défiler. Tu sais, oh, c'est beau la guerre. Tu sais, il était vraiment dans une espèce de... Tu sais, il n'y avait pas peur. Il soupçonnait, il était loin de soupçonner tout ce que ça représentait, tout ça.
Oui, c'était un petit gars effronté, plein de vie, quoi.
Oui, et puis... En fait, quand il fallait se cacher, ben c'était presque un jeu pour lui. Soit qu'il avait été obligé de grimper une fois pour se passer par une fenêtre, je sais pas trop. En tout cas, mais c'est plus tard. Vous disiez tantôt que... Oh, j'avais tellement de choses à vous dire.
Pauvre Janine. Puis moi, je vous laisse aller un petit peu parce que je veux pas vous couper la parole, justement.
Oui.
Je veux que vous arriviez à vous retrouver.
Bon.
Ce qui est certain, Janine, c'est qu'aujourd'hui, M. Cyrulnik est psychiatre.
Oui,
il est psychologue. Hein? Et c'est un type qui est encore toujours et plein de vie. Et tous ses livres sont d'ailleurs comme ça. Et c'est un bonhomme qui ne se prend pas la tête, comme on dit.
C'est ça, parce que, en fait, ça s'explique par... peut-être ça s'explique par une chose. Il avait dit, en tout cas, tout en racontant ces choses-là, il faisait des déductions, hein, parce que plus tard, il réalisait tout ce qui lui est arrivé.
Oui.
Puis, il disait que quand un enfant est entouré d'amour, qu'il est sécurisé, eh bien, quand arrivent des choses comme ça, il peut, même sa mémoire, il peut passer au travers, il demeure stable. Ça l'affecte oui. beaucoup moins que quelqu'un qui, par exemple, n'a pas été trop, qui a manqué de tendresse, qui a manqué. Mm-hmm. Parce que,
qui a manqué d'amour, quoi.
Oui, c'est ça. Alors, lui, ça l'a aidé. Mais je dirais que beaucoup plus tard, il y avait peut-être 40 ans, je ne sais pas trop,
oui.
là, il revoyait, il y avait des gens qu'il reconnaissait ou qui avaient déjà entendu parler de lui,
oui.
qui l'avaient connu. Puis là, il se présentait à lui. Et puis là, il y avait des choses qui ressurgissaient de sa mémoire
oui.
qu'il avait oublié. Puis là, c'était comme un choc nouveau.
Oui,
c'est
oui,
comme
oui.
s'il réalisait tout à coup tout ce qui s'était passé quand il était petit.
Oui.
Puis à ce moment-là, à quel point il ne réalisait pas encore totalement.
Exactement,
là.
C'est fou. Hein? Oui. Même après avoir écrit ce livre-là, justement, qui est une référence à la mémoire aussi. Je lisais aussi qu'il est une analyse très fouillée de l'impact
ah, oui.
de la violence, parce que il a vraiment failli mourir. Hein? Quand il dit, lui, qu'il est revenu à la vie, c'est à la seconde où ils sont venus le chercher pour l'envoyer à la mort. Donc c'est là qu'ils l'ont caché sous le lit et tout. Alors c'est,
oui.
vous savez, là je repensais quasiment au film et au livre de comment Benigni, la vita est belle, hein. Et bon ben voilà cette façon.
La vie est belle. Moi aussi j'ai pensé à ça.
Ah c'est ça. Hein?
Oui oui.
Bon, Janine, on va être obligée de s'arrêter là parce que
pas
je veux. Mais oui. Pas déjà, elle dit. Parce que j'ai aussi Roxane qui est en studio et j'aimerais beaucoup que
oui.
vous écoutiez quand l'émission va être diffusée. Vous allez voir, c'est quelqu'un de bien, puis c'est quelqu'un dont vous allez avoir envie de lire les livres, j'en suis sûre, et peut-être même de m'en parler à la saison prochaine.
Bon, d'accord.
Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Je rappelle le titre du livre « Sauve-toi, la vie t'appelle » de Boris Cyrulnik. Cyrulnik. C'était présenté aujourd'hui par Janine Vanier, que j'embrasse fort, 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 fort.
Merci, moi aussi.
Au revoir.
Bonjour.
Roxane Bouchard, bonjour.
Bonjour. J'ai été, est-ce que je peux le dire, très impressionnée par
oui, hein.
Madame Vanier.
Ah oui, hein.
Quelle lectrice, quelle mémoire
oui,
aussi
hein.
pour raconter
oui.
tout
oui, parce
ce
qu'elle m'a avoué qu'elle ne l'avait pas relu.
Ah oui, vraiment bonne. Moi, j'enseigne la littérature depuis plusieurs années et je ne suis pas capable de parler des œuvres aussi facilement sans prendre une tonne de notes. Je l'ai trouvée vraiment impressionnante.
Elle est incroyable, hein?
Oui.
C'est pas une petite jeunesse, madame, mais elle est comme ça. C'est une femme brillante et c'est une femme qu'on aime énormément ici. Roxane Bouchard, je suis très contente de vous accueillir ici. D'abord parce que vous êtes une de nos auditrices.
Oui.
Et ça, si vous ne l'aviez pas écrit, bien évidemment, je l'aurais pas su. Mais c'est le fun de savoir qu'il y a aussi des gens, des auteurs peut-être comme vous qui nous écoutez à l'occasion. Et
c'est sûr que les émissions littéraires, les bonnes émissions littéraires, encourent ça les auteurs. On aime ça les entendre.
Écoutez, alors comment voulez-vous? Alors dès qu'elle m'a écrit ça, je me suis dit surtout que j'avais sur votre table, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais sur mon bureau, entre autres, parmi tous les livres que j'avais sur ma table de chevet, Nous étions le sel de la mer. Et à ce moment-là, je ne savais pas encore grand-chose, ni de vous, ni quand ce livre-là m'est tombé dans les mains. Mais ce titre, Nous étions le sel de la mer, ça m'a tellement emballée. Je me suis dit, un jour, je vais accueillir cette femme-là. D'abord, je vais lire son bouquin et ensuite, je vais l'accueillir. C'est de vous ce titre-là, c'était votre
oui,
idée?
Oui, ça c'était mon idée. Le titre, en fait, ce que j'aimais là-dedans, c'est la nostalgie. C'est un roman, on me parle beaucoup de la mer, j'imagine
oui.
que vous allez m'en parler abondamment.
Oui!
Mais pour moi, c'est un roman sur la nostalgie, sur
oui.
les sentiments, sur ce qui nous... sur comment notre regard sur nos émotions
oui.
et finit par transformer le réel. Alors,
oui.
Nous étions le sel de la mer, c'est aussi comment toute la nostalgie, toute le... comment je pourrais dire ça, comment les émotions transforment les choses.
Oui.
Nous sommes du sel comme dans la mer, puis on se laisse bercer par la mer.
Oui, oui. Oh, ben, d'ailleurs, vous avez quelques phrases sur la mer. Attendez, je vais vous en retrouver une. Oh, j'ai trouvé ça tellement beau. Je me suis dit, mon Dieu, que c'est bien écrit.
Vous allez me faire la lecture de mon livre.
Oui, ça ne vous dérange pas.
Hein? Ah, j'aime ça.
C'est vrai. C'est une toute petite phrase, mais là, j'ai écrit... Mon Dieu, que c'est bien écrit cette chose. Et voilà, puis c'est pas bien parce que je n'arrive pas à retrouver la page. Ah voilà, j'aime ces mots qui veulent tout dire en dessous. J'ai écrit, je tourne une dernière fois mes pupilles explosées de lumière vers la côte escarpée de la baie des Chaleurs qui, déjà loin, disparaît dans la brume têtue de l'aurore. Tu sais, ah, le bon mot qui tue, la brume têtue de l'aurore. Moi, ça, c'est le genre... Quand je lis ça, ça me fait comme... Surtout quand c'est lu à voix haute, comme ça, c'est vraiment fantastique. Alors, la mer. D'abord, il faut savoir que la mer fait partie de votre vie. Vous avez beaucoup navigué, vous.
Mais j'ai beaucoup navigué, mais tard. C'était un rêve que j'avais adolescente, de faire la planche à voile. Oui, mais j'avais peur, je ne savais pas nager, moi. Puis un jour, j'ai appris à nager, je suis allée faire de la planche à voile et au tournant de la trentaine, je me suis retrouvée célibataire malgré moi ou avec moi, en fait, peu importe. Et j'ai décidé de partir en mer. Je me suis dit, tiens, voilà, je vais faire le rêve de mon adolescence. J'avais un été libre, alors je me suis inscrite à des cours de voile et je suis partie en voilier sur le fleuve à partir de Rimouski. Il a fait très, très, très mauvais cette semaine-là. C'était épouvantable. Et finalement, j'ai adoré ma semaine et je suis repartie en voile avec les gens que j'avais rencontrés sur ce voilier-là. Dans le sud. Après, je suis allée faire des cours de mécanique diesel, des cours de GPS, des cours de soins, tous les cours en veux-tu en v'là. Et je suis allée porter mon CV pour devenir équipage sur différents voiliers. Alors, j'ai fait ça sur le fleuve. Je l'ai fait aussi dans la baie des Chaleurs, jusqu'aux îles de la Madeleine. J'ai amené des bateaux, ramené des bateaux. Je suis allée en faire dans le sud pendant mes vacances. Alors, j'ai été équipage de voile pendant... 6 ans, dès que j'avais des vacances, je sautais sur un voilier. J'ai fait à peu près, je pense, 42 voiliers dans ces 6 années-là.
Et l'écriture? C'était après, avant, pendant?
Pendant!
Elle fait tout en même temps, cette femme-là, je vous le dis.
Je pense que je suis une hyperactive, malgré moi. Oui. Oui, parce que quand j'allais en voilier, quand on va en voilier, les soirées sont tranquilles, surtout quand t'es équipage. Des fois, le skipper va partir à terre, va aller manger avec des amis, va aller faire autre chose. Moi, je me sens pas obligée de tenir compagnie au skipper, ce qui fait que j'écrivais, je prenais des anecdotes en notes. Et j'étais allée, entre autres, en Gaspésie, et à partir d'un quai, il y avait, sur le quai de Bonaventure, il y avait aussi des bateaux de pêche.
Ouais.
Et là, j'allais jaser avec les pêcheurs qui m'ont dit, « Mais c'est quoi ça, les voiliers, ça va tout croche, t'es pas bien là-dedans, si t'as envie de savoir c'est quoi un vrai bateau, viens-t'en demain matin avec ta tuque sur le bout du quai à 4 heures. » Alors, sur le bout du quai à 4 heures, j'étais là le lendemain matin, et je suis allée aussi donc faire la pêche avec des pêcheurs en Gaspésie.
C'est ce qui vous a donné l'idée et le goût de ce livre « Nous étions le sel de la mer ». C'est là que vous avez puisé cette inspiration.
Oui, j'ai pris plein d'anecdotes, et pas juste des anecdotes, aussi des personnages. Presque tous les personnages de ce livre-là sont des personnages tirés du réel.
Que j'ai reconstruit
à partir de personnes qui existent. Le personnage de Cyril existe.
OK.
Yves Carle existe. C'est tout
Cyril, qui disait, pardon de vous interrompre, allez-y. Mais c'est de vous et c'est trop beau. Cyril... Il disait que la mer était une courte pointe, des morceaux de vagues attachés par des fils de soleil. Il disait qu'elle avalait les histoires du monde et les digérait longuement dans son ventre cobalt pour n'en renvoyer que des reflets déformés. Il disait que les événements des dernières semaines sombreraient lentement dans la pénombre de la mémoire. Mais dites pas, vous n'avez pas envie de lire ce bouquin maintenant que je vous... Alors, mais je peux pas vous en lire plus parce que sinon ça va l'air complètement ridicule parce que c'est... Très québécois, c'est très gaspésien. Et alors, avec mon gros accent français, ça ne marche pas.
Pour vrai, tantôt, j'y ai pensé, je me disais, c'est la première fois que j'entends mon livre avec cet accent.
Oui, mais je ne vous ferai pas du dialogue.
D'autant plus que Cyril, c'est un drôle de bonhomme. C'est un vieux bonhomme qui était rentré à je ne sais plus combien de kilomètres heure dans une clôture à broche avec son skidoo quand il était jeune. Et il y a eu la trachée écrasée par une broche. Ce qui fait que quand il parlait, il fallait tout le temps qu'il reprenne son souffle.
Ce qui fait qu'il me parlait comme ça. La petite, je vais te raconter des histoires.
Ce qui fait que dans votre voix, c'est complètement autre chose. Clotilde, aujourd'hui, on va se le dire.
Ça, j'imagine.
C'est une autre histoire ici.
Alors, bon... On ne va pas trop dévoiler parce que c'est un thriller aussi. Il y a un meurtre.
Mais en tout cas, il y a une femme qu'on trouve dans des filets.
Oui, c'est oui, une femme qui était partie seule.
Qui était partie seule, c'est
voile,
ça, en voile.
Et qui est ramassée un matin dans le filet de Vital.
C'est ça. Alors, parce que je voudrais aussi qu'on parle de tout ce que vous faites dans la vie, ben, d'autres livres surtout, c'est pour ça que je ne voudrais pas en dire trop, parce que nous sommes en Gaspésie, qu'on visite d'ailleurs, et à un moment donné aussi, une autre page, oh, si vous me le permettez. Tenez, regardez-moi ça, oh, c'est tellement chouette. Des belles images en couleur. Oh mon Dieu, ça donne envie de le lire, puis en plus d'aller en Gaspésie. D'habitude, je m'en vais vous dire rien qu'une affaire, les touristes, ils suivent le tracé. ça vous fait rire, hein? J'avais décidé de vous faire rire. Mais attendez, c'est pas fini. Mais il faut partir par le nord, par exemple. Regardez ça, si c'est bien fait. Tu commences par la côte, visiter les jardins de Métis, la passe au saumon de matin, et puis la maison, et la maison des six mariages. Puis après, t'arrives dans la haute Gaspésie. Bon, on va vous dire que je ne sais pas pantoute si elle est plus haute que le reste. Mais en tout cas, les éoliennes de Captcha vous fascineront. Ne manquez pas le parc national de la Gaspésie ni le musée des phares de la Martre. Quand je vous dis que c'est un voyage, hein, vraiment, en Gaspésie, c'est un thriller, un voyage et des personnages vraiment merveilleux.
Lui, d'ailleurs, Renaud Boissonneau, il existe pour vrai. Et il m'appelle régulièrement pour savoir qu'est-ce qui se passe avec le livre, avec son livre qu'il dit. Puis ce qui est drôle, c'est qu'il m'a appelé puis il m'a dit « Hey, dans ton livre, j'ai un restaurant, je suis assez content, moi, j'ai jamais eu une scène.
» Roxane, vous avez aussi, avant qu'on parle de vos précédents bouquins, qui sont aussi enregistrés en audio adapté pour nos amis non-voyants, vous avez... là, j'ai perdu le fil de ma phrase complètement. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, je ne sais plus. Si, vous avez un contact avec vos lecteurs que je trouve rare, parce que vos lecteurs vous écrivent beaucoup, et vous-même, à un moment donné, vous avez écrit à vos lecteurs.
Oui, sur mon blog.
Oui, sur votre blog. Et je trouve ça tellement beau, ce que vous avez, ce que vous leur écrivez, parce que vous leur dites carrément ben, qu'ils vous manquent.
Oui, mais moi, j'aime beaucoup ça. Les lecteurs m'écrivent beaucoup. D'ailleurs, l'homme, je ne me souviens plus de son nom, mais ça me fait tellement de peine. Ouais. L'homme qui a fait la chronique de mon livre il y a quelques semaines m'avait écrit et je lui avais répondu. Et souvent, quand les lecteurs m'écrivent, j'ai peu de temps pour répondre. Parce que si je passe la moitié de ma journée à répondre à des gens qui m'écrivent, qui sont vraiment charmants, malheureusement, je n'écris pas d'autres livres.
Est-ce que c'était Gérald Cousineau, peut-être, hein, qui avait parlé de vous, il me semble? Bon, écoutez, de toute façon, mais c'est ça. Mais en tout cas, quand je suis allée sur votre site, je me suis dit, tiens, cette femme, elle a autant, je pense, de respect et d'amour pour ses lecteurs qu'eux en ont pour elle.
Ah, c'est donc bien gentil. Mais c'est sûr que quand on reçoit là, des courriels de lecteurs, quand j'écris, moi, je suis toute seule devant mon ordinateur, des jours de temps avec mon pyjama, mon café. Et là, j'envoie le livre en me disant, voilà, il est imprimé, ciao, c'est parti. Et là, tout à coup, il y a des gens qui m'écrivent un mois, trois mois, six mois, des fois huit ans après la publication d'un livre, je reçois encore des mots. Et là, je me dis, souvent, ça arrive dans des journées un peu flagada où tu es un peu tanné d'écrire. Tu te dis, quoi que ça donne? Bon, je vais aller faire autre chose, je vais aller jardiner. Et là, tu reçois un courriel comme ça et tu fais, oh, puis ta journée est repartie.
Oui.
Et comme je n'ai pas le temps toujours de bien répondre aux gens, je me suis dit, je vais écrire un mot sur mon blog quand même qui est un peu plus long.
Mais quand même, bravo, parce que je dois dire que vous êtes professeur à temps plein de littérature en plus d'être auteur à Joliette.
Oui.
Et alors, on va revenir un petit peu dans le temps. Vous avez sorti votre premier livre qui s'appelait Whisky, qui s'appelle toujours Whisky et Parabole.
Oui.
D'ailleurs, qui a été enregistré aussi.
Oui, en 2005.
En 2005, et pour lequel vous avez obtenu le prix Robert Clich.
Oui.
Ça a été une grande surprise. Vous ne vous y attendez pas ou...
Ah, mais pas du tout.
Pas du tout.
Moi, j'avais écrit ce livre-là. Moi, j'ai jamais voulu devenir auteur. Et j'avais écrit ce livre-là. Un de mes amis m'avait mis au défi. Alors, j'ai écrit ce livre-là et je l'ai envoyé. J'ai dit, tiens, voilà, j'ai écrit un livre. Et puis après, il est resté, j'appelle ça, moi, les éditions du tiroir, là, le deuxième tiroir à gauche dans ma commode. Et mes étudiants, bon, et moi, je me suis déconjointée, le conjugal, je me suis séparée juste avant de partir en mer. Et au moment où je me sépare, il y a un de mes... Là, je suis déprimée. Mes étudiants sont en grève, ça marche pas bien, mon affaire. Et il y a un de mes amis qui dit, t'avais pas écrit un livre, toi, envoie les dons au prix Robert Clich. Et il me donne... au téléphone, l'adresse. Alors, j'ai imprimé le roman, je l'ai envoyé au prix. J'ai dit, bon, ciao, bye. Et après ça, je faisais des blagues avec tout le monde. Je disais, c'est sûr, je vais gagner le prix Robert Clich parce qu'il y avait une bourse avec. Je disais, ça va payer mes électros. Ce qui fait que le matin, quand mon éditeur a appelé en disant « Madame Bouchard, vous avez gagné le prix Robert Clay », j'étais sûre que c'était un ami qui me faisait une blague, puis j'ai dit « Parfait, ça va payer mes électros. » Ça a été la première phrase que j'ai dite à un éditeur, ça, madame. J'ai pas le temps de me vendre.
Vous comprenez pourquoi j'aime beaucoup Roxane? J'adore votre humour, vraiment, 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 vraiment. Alors, un extrait. C'est quoi la différence entre un conte et une parabole? Le conte, c'est du mensonge. J'aime beaucoup ça. La gifle. C'est quasiment... c'est la gifle mode d'emploi, je crois.
Oui.
Alors, ça aussi, c'est disponible. Attendez, on apprend à donner une baffe, à en recevoir?
Oui, c'est ça. Moi, je trouve que les femmes, c'est un mode d'emploi qui s'est malheureusement perdu avec le temps et que la femme moderne doit se réapproprier l'art de la gifle. Alors, j'ai fait c'est un petit roman où il y a l'histoire de Francesco qui se mérite une baffe de la part de plusieurs femmes. Et on comprend... D'abord, je fais une historique de la gifle. Ensuite, comment donner la gifle? Est-ce que ça se donne avec le revers de la main ou avec la paume? Ensuite de ça, comment est-ce qu'on s'habille pour donner une gifle ou est-ce qu'on donne une gifle? On ne s'habille pas en vieux jeans dans une taverne. Okay? On se met des talons hauts, une robe, on fait ça en public, on est très élégante, on donne la gifle et puis après, on va chercher un verre de champagne. Alors, il y a un mode d'emploi de la gifle. Évidemment, c'est un livre humoristique.
Roxane, quand est-ce qu'on vous voit sur une scène?
J'en fais tous les jours. Depuis 22 ans, j'enseigne la littérature. Mais, c'est ma scène.
Mais ils doivent être complètement passionnés. Ils doivent être complètement...
Ils sont surtout passionnants.
Oui?
Oui, ils ont toujours 20 ans. Et moi, je vieillis. Hein. Ce qui fait qu'ils m'aident à rester jeune.
Non, mais c'est formidable d'entendre un professeur parler de ses élèves du cégep comme ça, parce qu'on entend tellement souvent le contraire.
Non, il y a plein de profs qui sont passionnés. Ce printemps, j'ai fait avec mes étudiants une nuit de la littérature.
Wow.
Et pour cette nuit-là, on est sur 20 enseignants de mon département. Il y en a eu 10 qui sont venus bénévolement dans la tempête, venir animer des ateliers pendant la nuit. Puis en plus, c'était dans la nuit du jeudi au vendredi saint, début d'une fin de semaine de congé. Je pense qu'il en reste plein des enseignants passionnés, puis on n'en parle pas assez.
Mais est-ce que les jeunes sont passionnés par la littérature? Est-ce que vous arrivez à les passionner par la littérature?
Ah oui, tout à fait. C'est sûr que j'enseigne au cégep de Joliette.
Oui.
Alors, on a une cohorte, bon an, mal an, d'une quinzaine d'étudiants. Mais ceux qui sont là, ils sont vraiment passionnés. Ils animent avec moi des blogs littéraires, des créations littéraires. Ils sont intéressants, oui.
Elle s'appelle Roxane Bouchard. Et j'espère qu'elle vous a donné le goût de lire les trois livres pour l'instant qui sont enregistrés. Je dis pour l'instant parce qu'il y en a un autre dont j'aimerais bien qu'on prenne 10 secondes pour parler. Mais là, en attendant, vous pouvez aller vous procurer Whisky et autres paraboles au pluriel. Également, vous pouvez vous procurer La Gifle, mode d'emploi, ainsi que ce thriller gaspésien formidable, Nous étions le sel de la mer. Tout ça, c'est... Dites-moi le titre. Comment s'appellent ces correspondances avec un militaire que vous avez écrites?
En terrain miné, correspondance en temps de guerre.
Bon, alors ça, écoutez bien ce titre. Nous ne l'avons pas encore. Il n'est pas encore enregistré, mais je vais en faire la demande officielle. Roxane Bouchard, merci beaucoup. Vous êtes un personnage fascinant, passionnant et une auteure que j'adore. Merci beaucoup.
C'est un grand plaisir. Merci à vous.
Au revoir. Nous étions au bord de la mer avec Roxane Bouchard. Je vous propose d'y rester dans cette seconde partie de l'émission des livres pleins les oreilles. Nous allons à la baie des fourmis avec Souchon et Voulzy.
Devant la baie des fourmis. rester la journée entière ici, sur le mur de pierre, devant la baie du Fourmi, regarder la mer, ne pas avoir d'autre envie que regarder la mer. Laissez le temps s'en aller là, laissez aller les voiles rouges sur la mer qui bouge. Laissez sur l'eau transparente glisser les soucis de la vie, glisser les jolies sirènes aussi dans la baie des fourmis. Et les gens, il y a une fête à Saint-Jean, et moi je reste là à regarder la mer, rester la journée entière ici, sur le mur de pierre, devant la baie des fourmis, regarder la mer, ne pas avoir d'autre envie que regarder la mer. Avoir d'autre envie que regarder la mer.
Voilà, monsieur, messieurs Souchon et Voulzy, que nous écoutions. C'est un extrait de cet album qu'ils ont fait ensemble récemment. On va rester dans le domaine maritime. Je vais vous amener sur ma table de chevet, tiens, et puis je vais vous parler d'un livre qui s'appelle « Plus rien que les vagues et le vent ». Vous vous souvenez sûrement, c'était déjà, c'est encore très très frais à votre mémoire, ce livre « Nous étions le sel de la mer » dont nous avons parlé avec Roxane Bouchard, et l'histoire de cette Catherine qui débarque à la baie des Chaleurs en Gaspésie, pensant notamment retrouver sa mère biologique après une rupture avec son compagnon. Elle a comme largué les amarres, comme elle dit Roxane Bouchard. Eh bien, cette fois-ci, dans ce livre-là, « Plus rien que les vagues et le vent », il s'agit d'un Français, un Français dont on ne sait absolument rien lorsque lui, il arrive à Cannon Beach, en Oregon. C'est un lieu perdu. Un lieu perdu avec une nature très, très sauvage, un océan très tempétueux, on pourrait le dire comme ça, une plage déserte, il y a un volcan pas très loin, il y a un phare abandonné, bref, c'est là qu'il aboutit, ce type. Et ce Français se prend une chambre dans un motel pour une nuit, il s'installe dans un bar qui s'appelle « Le Retour d'Ulysse », où il va finalement, parce qu'il va rester là, il va revenir soir après soir, écouter les récits de trois types qui sont de véritables losers penchés sur leur bière, Coulter, Shannon et Harry Dean. Ils sont, comme on peut le lire dans le livre, soumis à la misère, comme si c'était un milieu naturel, à la vie toute petite. C'était des histoires dans lesquelles il fallait accepter qu'il y ait des trous, des zones plus vagues, des bouts de puzzle qu'on s'appliquerait plus tard à recomposer. C'est toujours un extrait de ce livre, « Plus rien que les vagues et le vent », morceau après morceau, jusqu'à former une image qui resterait sans doute incomplète. Chaque soir, je rentrais au motel avec des pièces de puzzle qui gisaient en vrac dans ma tête, alourdies par les bières. Il y a un lecteur qui nous dit « Je vous raconte un peu l'histoire parce qu'une fois n'est pas coutume, elle prend plus d'importance que dans les autres livres de, et j'ai oublié de vous donner le nom de l'auteur, bravo Clotilde, Christine Montalbetti, ça s'appelle Montalbetti, et ce livre dont je vous redonne le titre, c'est « Plus rien que les vagues et le vent », ce livre dont l'auteur, parce que moi je ne suis pas encore assez rendu loin pour vous en parler par moi-même, mais il dit que l'important
dans ce livre, c'est le regard, c'est la façon d'observer, de raconter dans ce livre, de raconter l'histoire, même des personnages secondaires, d'observer le moindre détail. Il semblerait que en tant que lecteur, on se délecte, de, par exemple, de sa description scrupuleuse d'une partie de ping-pong ou encore du bruit d'un moteur, d'un réfrigérateur et tout ça. Et puis, surtout, c'est un livre qui sait terriblement bien parler de solitude, d'abandon et de perte. Plus rien que les vagues et le vent, rien que le titre, je trouve que c'est une vraie beauté. Permettez que je vous en lise un extrait. Dans mon idée, tout ça, c'est de la faute de l'océan. C'est à cause de ce qu'il y a dans ce paysage de blessés, d'usés par la bourrasque et le sel, de grignotés et de friables, et aussi les formes retournées des arbres, le long des bâtisses, les branches tordues, déformées, malmenées, qui donnent la réplique aux rochers hérissés. Tout ce qu'on sent là en même temps de déliquescence et d'emportement. Tout ce qu'il y a de borné, de perpétuel et d'insoluble, ça devait les travailler. Colter et les autres, remuaient dans leurs entrailles un genre de ressentiment aveugle. L'océan, ce n'était pas tellement qu'ils y pensaient, c'était sa présence constante, c'était ce qu'il y avait dans l'océan d'indépassable, ce paysage entêtant dans lequel ils vivaient et auquel ils avaient fini par ressembler. Et c'était à force qu'ils l'entendent s'écraser violemment sur le rivage, essoufflé, volontaire, effritant et rôdant, insinuant partout son venin salé, vindicatif, écumant d'une rage inexplicable. À force qu'il leur impose le spectacle de sa colère sans fondement, une colère immémoriale qui se nourrit d'elle-même, cette énergie incalculable avec laquelle il frappe la côte, toujours la même furie, le même énervement, immotivé et somptueux. Et ils étaient à la fois, je me dis, ce sable fragile que l'océan bat sans relâche, leurs blessures passées. Est-ce qu'ils ne les avaient pas endurées de la même manière hébétée que le fait la plage, docile, soumise, passive, qui reçoit tout ça sans broncher, seulement chaque fois un peu plus abîmée, et l'eau tumultueuse, capable de porter à son tour le tourment. Voilà, je viens de vous lire un extrait de ce livre « Plus rien que les vagues et le vent » qui fait désormais partie des livres qui se retrouvent sur ma table de chevet. Je vous rappelle le nom de l'auteur, Christine Montalbetti, M-O-N-T-A-L-B-E-T-T-I. Et j'ajoute que l'an dernier, Madame Montalbetti et Roxane Bouchard étaient ensemble en Bretagne pour le prix du livre « Marin ». Et finalement, eh bien, c'est Madame Montalbetti qui l'a reçue pour « Plus rien que les vagues et le vent ». Devant qui ? Devant Roxane Bouchard pour « Nous étions le sel de la mer ». Et je vous jure que je ne le savais pas, je l'ai appris dans le couloir avant d'entrer en studio. Alors la semaine prochaine, mais ce sera la dernière émission originale en tout cas, parce que on va vous proposer quelques reprises de vos émissions préférées, des livres plein les oreilles, de toutes celles que vous avez entendues cette année, pendant cet été. Mais là, ce sera vraiment la dernière originale de la saison 2015-2016. Et j'ai invité d'abord les deux chroniqueurs qui ont le plus chroniqué cette émission, deux personnalités non-voyantes, que sont Gérald Cousineau et Gérard Saint-Denis. Et j'ai invité aussi cet auteur que nous aimons beaucoup, d'autant plus qu'elle est notre porte-parole ici chez Vues et Voix. Je me suis dit à tout seigneur, tout honneur, il faut terminer la saison avec elle, en l'occurrence Claudia La Rochelle, dont le livre « Je veux une maison faite de sorties de secours » est maintenant disponible depuis très peu de temps en version audio adaptée. On se souvient, Nelly Arcan, qui a été trouvée morte un jeudi après-midi dans son appartement du plateau Mont-Royal. Ses amis connaissaient son obsession pour le suicide. D'ailleurs, cette obsession-là teinte toute son œuvre. Nelly Arcan, l'écrivaine, provocante et mystérieuse, mais aussi une fille ordinaire, vulnérable et humble, qui n'avait rien d'une diva, écrivait à ce moment-là Catherine Anfield dans la presse. Dans ses livres comme dans sa vie, une fixation sur l'apparence physique, le refus de vieillir et un grand mal de vivre. Depuis 15 ans, ses amis faisaient tout pour la maintenir en vie, mais la souffrance était sans doute devenue trop intolérable. La journaliste Claudia La Rochelle, qui connaissait Nelly Arcand, poursuit Madame Hadfield, depuis plusieurs années, la décrit avant tout comme une amie formidable. Madame La Rochelle a, elle aussi, reçu un courriel de l'auteur, ce même jeudi après-midi. Elle lui demandait des nouvelles et lui rappelait qu'elle était là pour elle. « Nelly, c'était un chat sauvage », a dit Claudia La Rochelle, « comme ces deux siamois qu'elle aimait tellement. Il fallait l'apprivoiser, la gagner. Quand c'était fait, on découvrait une fille brillante, posée, très généreuse, avec une écoute incroyable. » Elle va me manquer et manquer au monde littéraire québécois, a conclu Claudia La Rochelle. Elle avait encore tellement de choses à dire. Claudia La Rochelle, qui avait succombé au charme de Nelly Arcand lors d'une entrevue entre la publication de ses deux premiers romans, et Claudia La Rochelle à ce moment-là qui avait déclaré « Je suis tombée en amour amical avec elle, avec Nelly Arcand ». Elle viendra donc nous parler de ce livre « Réflexion sur la vie et l'œuvre de Nelly Arcand, je veux une maison faite de sortie de secours » sous la direction de Claudia La Rochelle, qui était désireuse de perpétuer la parole de Nelly Arcand sur toutes les tribunes et dans tous les esprits avec son livre. Claudia La Rochelle d'ailleurs qui s'est assurée que son œuvre soit enregistrée en version audio grâce à Vues et Voix. On précise dans ce papier-là l'organisme à but non lucratif qui produit des livres audio, et ça vous le savez, organisme dont elle est maintenant la porte-parole. J'ai un très court extrait, si vous le voulez bien, de ce livre-là, puisqu'on parlait des chats, tiens, dont elle était passionnée. Voici dans « Je veux une maison faite de sortie de secours », dont viendra nous parler Claudia la semaine prochaine, un extrait de « Putain ». De Nelly Arcand, où elle écrivait « Pour la première fois de ma vie, je me retrouvais seule dans un appartement avec une chatte siamoise que mes parents m'avaient offerte pour que je ne souffre pas de la solitude, pour qu'on puisse s'accommoder l'une de l'autre, pensait-il sans doute, partager le même lit et développer des habitudes, former un écosystème de caresses et de petits besoins. Elle était le seul élément stable d'un univers pressant de nouveautés. » Voilà. Alors, rendez-vous la semaine prochaine pour cette dernière émission avec Claudia La Rochelle. Il faut aussi que je vous dise que la semaine prochaine, je reçois mon amie bénévole Marie-Christine Mora, qui viendra nous parler d'un livre beaucoup plus léger qui s'intitule « Ma grand-mère vous passe le bonjour » ou vous dit le bonjour, enfin quelque chose du genre. Voilà, c'est bien ça. Voilà, « Vous passe le bonjour » de Frédéric Bachmann. Une histoire vachement sympa entre une petite fille et sa grand-maman. Et à un moment donné, la grand-maman disparaît et c'est un drame terrible pour la petite fille qui va aller à la rencontre finalement de cette grand-maman qui inventait des personnages. Et la petite fille va s'apercevoir que les personnages étaient peut-être pas si faux que cela. Ils avaient peut-être même existé. Voilà. Alors Marie-Christine Morin, qui l'a lu pour vous, ici chez Vues et Voix, viendra nous en parler. Alors, des nouvelles et des livres, j'ai envie de vous parler, parce qu'on en est bien fiers, du prix des libraires. Dans la catégorie Québec, il y avait plusieurs des invités qu'on a accueillis ici à l'émission des livres plein les oreilles. Je pense notamment à David Goudreau et je pense aussi à Anaïs Barbeau-Lavalette, à qui l'on doit Une femme qui fuit. Vous savez, cette femme, Anaïs Barbeau-Lavalette, qui nous raconte la mère de sa mère, dont elle savait finalement très peu de choses, si ce n'est que cette femme s'appelait Suzanne, et qu'en 1948, elle était aux côtés de Bordua, Gauvreau et Riopelle, quand ils signent le refus global. Cette femme qui, avec Barbeau, fonde une famille, mais très tôt, elle va abandonner ses deux enfants, dont la maman d'Anaïs Barbeau-Lavalette, et elle les abandonne pour toujours. Alors, afin de remonter le cours de sa vie, de la vie de cette femme à la fois révoltée et révoltante, l'auteur a engagé une détective privée. Et les petites et les grandes découvertes n'allaient pas tarder. C'est une émission qui était passée le 7 avril dernier. Et si vous le voulez bien, je voudrais vous en faire entendre un très court extrait. Je venais de demander à Anaïs Barbeau-Lavalette quelle était la part de fiction et la part de réalité dans ce livre-là, Une femme qui fuit?
En fait, c'est vraiment un mélange de ce qu'on a pu trouver avec des bribes de correspondance, des archives, des témoignages. J'ai rencontré beaucoup de ses amis, beaucoup de ses amants, parce qu'elle était une femme à homme. Donc, il y a beaucoup de vrai et beaucoup de liberté que je me suis donnée aussi. C'était aussi mon plaisir, c'est-à-dire qu'il y a des segments de sa vie qui étaient très, très documentés et d'autres presque pas. Et donc là, je me suis permis de m'inventer la grand-mère que j'ai jamais eue, en fait.
Si vous avez envie, vous aussi, de réentendre Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est venue donc ici à cette émission pour nous parler de ce roman, Une femme qui fuit, je vous donne rendez-vous, bien sûr. Vous savez que vous pouvez aller sur notre site Internet, hein, si vous faites Canal M, juste ça déjà, en faisant Canal M, vous tombez directement sur nous. Alors, c'est vraiment excessivement simple. Oubliez les .org et les .com. Faites donc Canal M, M majuscule, et vous tombez sur nous directement. Et là, bien, vous allez cliquer dans « Émissions », « Des livres plein les oreilles », et là, vous allez voir toutes les émissions défiler sous vos yeux. Il suffit de retrouver, ou encore dans vos oreilles, parce que je sais que c'est la voix de synthèse qui vous parle. Alors, il suffit de retrouver celle du 7 avril. Donc, le prix des libraires, catégorie Québec, Une femme qui fuit, Anaïs Barbeau-Lavalette. Mais il y a aussi le prix des libraires, catégorie hors Québec, et là, c'est Elena Ferrante, et qui l'a reçue pour L'amie prodigieuse. Je sais que quelqu'un, une bénévole, était venue nous parler de ce livre-là, L'amie prodigieuse, d'Elena Ferrante. Je vous fais un petit résumé tel que j'ai pu le trouver en faisant des recherches, parce que je n'ai malheureusement pas ce livre à la maison, qui nous dit, résumé, « Je ne suis pas une nostalgique de notre enfance. Elle était pleine de violence. C'était la vie, un point c'est tout. » Et nous grandissions avec l'obligation de la rendre difficile aux autres avant que les autres ne nous la rendent difficile. Elena et Lila vivent dans un quartier pauvre de Naples à la fin des années 50, et bien qu'elles soient douées pour les études, ce n'est pas la voie qui leur est promise. Lila abandonne l'école pour travailler dans les shops de cordonniers de son père. Elena, soutenue par son institutrice, ira au collège puis au lycée. Les chemins des deux amies se croisent et s'éloignent avec, pour toile de fond, une Naples sombre, en ébullition. C'est un formidable voyage dans l'Italie du boom économique. L'amie prodigieuse est le portrait de deux héroïnes inoubliables qu'Elena Ferrante, ça s'écrit F-E-2-R-A-N-T-E, traque avec, nous dit-on, passion et tendresse. Je voudrais vous lire l'avis d'une lectrice qui a découvert ce livre avant vous, avant moi aussi. Ce livre, je vous rappelle, L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Je ne vous dirai pas quel rôle jouent les chaussures de Lila dans ce récit envoûtant, captivant, magnétique. Comme les poupées des fillettes lâchées dans la cave à charbon du terrible don Achille, ces chaussures vont faire leur chemin à travers le dédale des petites rues grouillantes de vie de ce quartier de Naples déshérité, déchiré de querelles et de conflits, et si âprement tendu vers la réussite proposée par la conjoncture, ouverte, d'une économie italienne en plein essor. On est à la fois dans une chronique socio-économique et dans l'univers des contes. L'ogre des contes, dont Achille, le petit pousset qui cherche sa trace, Lila ou Lena à tour de rôle, la bonne fée marraine, Madame Oliviero l'institutrice, la sorcière qui louche et qui boite, la mère d'Elena, la pantoufle de verre et le prince charmant, deux versions, Stefano, version économique, et Nino, version intellectuelle, qui retrouve ici une vie nouvelle, moderne et même parfois virulente. Les silhouettes de toutes ces familles émaillent le récit, père laborieux, souvent tyrannique, mère possessive, souvent au foyer, parfois folle d'abandon. Ça, c'est la figure pathétique de Mélina. Fille sous haute surveillance, sitôt la puberté annoncée, garçon apprenant très vite leur rôle de petit mâle arrogant ou protecteur. Et puis aussi quelques figures atypiques, comme Donato Saratore, le cheminot poète et aussi prédateur insidieux, Pasquale, le maçon communiste, Nino, l'intellectuel inaccessible, Antonio, le mécanicien courageux, les frères Solara, plusieurs mafiosi et nouveaux petits chefs du quartier. C'est une fresque haute en couleur qu'on a un mal fou à quitter. Heureusement, la suite existe, mes amis, et il semblerait que nous puissions nous y plonger très, très vite. C'est une lecture addictive, nous dit cette lectrice, presque aussi belle que la belle ville de Naples, ses îles proches, son volcan mythique et menaçant. En lisant, vous aurez des envies de pizza croquante, de fruits gorgés de soleil, de bains dans l'eau bleue et surtout tellement, tellement envie de croiser Lila, la belle ravageuse, ou Lénou, la chroniqueuse impitoyable de cette amitié prodigieuse. Alors voilà pour les prix des libraires. Celui-ci donc, le prix des libraires hors Québec 2016, remis à l'amie prodigieuse d'Elena Ferrante, F-E-2-R-A-N-T-E. Romain Gary, nous sommes dans les titres en rafale. On pourrait citer quelques-uns de ces titres. La promesse de l'aube, la vie devant soi, bien sûr, Les racines du ciel, Gros câlin, La nuit sera calme. Bon, ça, c'est parmi les plus célèbres. Et puis, il y a son dernier et aussi un symbolique roman, Les cerfs-volants. Les cerfs-volants, publié début 1980. C'était juste avant qu'il ne se suicide, le 2 décembre de cette même année. C'est en quelque sorte un testament littéraire où les thèmes chers à l'écrivain se retrouvent. Bon, bien sûr, l'amour, toujours, mais aussi la fraternité, la liberté de penser et d'agir, le pouvoir de l'imagination et l'espoir en avenir, malgré tout. Alors, un petit résumé pour Ludo, le narrateur. J'ai trouvé ça encore une fois dans mes recherches. Malheureusement, je n'ai pas le livre sous la main. L'unique amour de sa vie commence à l'âge de 10 ans, en 1930. Lorsqu'il aperçoit dans la forêt de sa Normandie natale la petite Lila Bronica, tiens, une autre Lila, aristocrate polonaise passant ses vacances avec ses parents. Depuis la mort des siens, le jeune garçon a pour tuteur son oncle, Ambroise Fleury, dit le facteur timbré, parce qu'il fabrique de merveilleux cerfs-volants connus dans le monde entier. Doué de l'exceptionnelle mémoire historique de tous les siens, fidèle aux valeurs de l'enseignement public obligatoire, le petit Normand n'oubliera jamais Lila. Il essaiera de s'en rendre digne, étudie, souffre de jalousie, d'ailleurs aussi à cause d'un bel Allemand. Bref, ce sont toutes ces histoires qui sont racontées dans le dernier, l'ultime roman de Romain Gary, maintenant disponible en audio adapté, Les cerfs-volants. Buena Vida de Florence K. Pourquoi écrire un récit aussi intime, lui a-t-on demandé, alors que son entourage l'avait mise en garde contre le tabou de la maladie mentale qui peut rapidement faire dérailler une carrière. Car c'est bien de cela dont il s'agit. Et ça a été dit dans les médias il y a maintenant quelques mois. Elle ne s'en était pas cachée. Elle a fait une dépression profonde. Et c'est de cela dont il s'agit dans ce livre Buena Vida de Florence K. où il s'agit bien de la musicienne chanteuse. Pour aider quelqu'un quelque part, a dit Florence K. C'est pour ça qu'elle a écrit ce bouquin. Quelqu'un aux prises avec les mêmes démons et qui se sentirait isolé. Elle reconnaît également que la rédaction de Buena Vida a eu un effet thérapeutique. On ressort de la lecture de Buena Vida avec la nette impression que la jeune femme est mieux outillée pour faire face à la vie. Et quand on lui dit ça, elle répond Florence K. Oui, ce livre, c'est un peu un mal pour un bien. Mais personne ne devrait avoir à passer par là pour être bien après. Je me suis demandé pourquoi, contrairement à d'autres comme Robin Williams ou d'autres, je n'étais pas passée à l'acte. Il y a un fil qui m'a tenue, mais si j'avais été aux États-Unis, que j'avais eu un gun dans ma table de chevet, je serais probablement morte. C'est pas mal plus facile que de te tailler les veines jusqu'à ce que mort s'en suive ou de te pitcher en bas d'un pont. Florence K. Buena Vida. Bon, le polar du jour, dans quelque chose de plus léger, j'ai choisi « Sous l'emprise des ombres » de John Connolly, C-O-N-N-O-L-L-Y. Là aussi, c'est une nouveauté. Quelque chose de louche est arrivé à Prosperous. Il l'avait senti dès le premier jour. Vivre dans la rue l'avait rendu réceptif aux gens qui avaient en eux la graine du mal. Et à Prosperous, une de ces graines avait germé. Une fois de plus, on nous dit que Connolly tisse une intrigue à couper le souffle. Un livre politique maintenant, La souveraineté en héritage, voyez-vous, il y en a vraiment pour tout le monde aujourd'hui, c'est de Jacques Beauchemin.
et le soupir d'un souverainiste fatigué, car c'est à peu près ça, ce livre. Il disait, entre autres, dans Le Devoir, si on est incapable de faire la souveraineté avec le PQ dirigé par Pierre-Carl Péladeau, je ne vois pas comment on pourra la faire. C'est ce qu'affirmait Jacques Beauchemin jusqu'à il y a encore quelques semaines. J'imagine qu'il devait encore y croire, mais qu'en pense-t-il aujourd'hui? En attendant, si vous aussi vous pensez que le Québec d'aujourd'hui est fatigué de se poser la question de son avenir, eh bien ce livre ne pourra que vous intéresser. « La souveraineté en héritage » de Jacques Beauchemin, qui, faut-il le rappeler, a été sous-ministre responsable de la langue française dans le bref gouvernement Marois, de l'automne 2012 au printemps 2014. Et c'est lui qui avait suggéré d'appliquer la loi 101 au cégep pour empêcher les francophones de fréquenter les collèges anglais. Vous vous souvenez? Tiens, et pour finir, un livre jeunesse, l'épopée du petit Jules qui mendie sur le parvis de Notre-Dame de Paris, qui est sous la coupe de doigts crochus, un voleur qui projette de l'initier à son métier. Alors si vous voulez suivre petit Jules qui doit fuir la capitale s'il veut échapper à l'emprise d'un autre truand, Louis le Mauvais, eh bien procurez-vous ce livre jeunesse qui est signé Maryse Rouy, l'épopée de petit Jules. C'est également disponible en version audio adaptée. Et c'est là-dessus que je referme cette émission aujourd'hui. Merci Jean-Sébastien Laliberté. Merci à mes invités Janine Vanier et Roxane Bouchard. Je vous souhaite une belle semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour la toute dernière émission de la saison 2015-2016. Salut!